Aujourd'hui, j'ai envie de partager un sujet qui, selon moi, n'est pas beaucoup abordé dans les églises. Le titre de mon message, « Le juste tombe, mais il se relève ». Avant de finaliser mon titre, au départ, je voulais juste marquer « Le juste tombe, mais » trois petits points. Mais je voulais aussi dire comme la suite, c'est « Il se relève ». Aujourd'hui, on va parler donc de tomber, de chuter, dans différents contextes. Peut-être dans des contextes de sport. Mais j'ai envie de parler plus particulièrement aujourd'hui de la chute du chrétien. De la chute du chrétien. C'est une belle chute, hein. Quand le chrétien tombe, c'est assez beau. Mais ça arrive. J'ai une question pour vous. Qui aime tomber ici? Est-ce que quelqu'un aime tomber ici? Non? Non, c'est rare, hein. C'est rare d'aimer tomber, je marquais. Voici une question qui demande une bonne réflexion. Et honnêtement, c'est vrai, je ne connais pas beaucoup de personnes qui aiment tomber. Et j'ai mis, quand je pensais à ça, j'étais en dehors peut-être des cascadeurs, ou peut-être même des footballeurs italiens, je suis désolé. Je ne suis pas contre les Italiens, mais c'est vrai qu'ils ont un talent assez hors du commun pour tomber avec beaucoup de grâce, et des fois on se demande si vraiment ils sont tombés pour de vrai. Mais c'est vrai, généralement, on n'aime pas tomber. Généralement, l'humain de base n'aime pas tomber. On n'aime pas tomber parce que ce n'est pas quelque chose d'agréable. Quelques chutes que vous pouvez voir. Alors celles-ci sont plutôt spectaculaires, hein. On se demande après coup comment les personnes se relèvent, mais en tout cas là, la chute est plutôt impressionnante. Aïe, ça fait mal. Et je pensais à une histoire justement pour illustrer un petit peu cette chute. Je pense que vu qu'on on habite en Suisse, peut-être pas tous, vous n'êtes pas tous Suisses, mais vous savez qu'en Suisse il y a de la neige. D'ailleurs aujourd'hui, il y a même de la neige un petit peu en montagne parce qu'il a fait froid et la neige est tombée. Et un des sports d'hiver que les Suisses aiment pratiquer, et pas que les Suisses, c'est le ski. Et vous savez, ces compétitions de ski, de slalom, de descente, c'est des compétitions qui demandent beaucoup. Et lorsqu'un skieur s'élance ou une skieuse s'élance, elle fait le slalom, elle continue, elle fait le slalom. Et arrivé à un certain moment, pour une raison, soit parce qu'elle a pris trop de risques, soit parce qu'elle fait une erreur, elle tombe. Alors là, on regarde cette personne et on se dit « Non, la chute, oh non !» Et les personnes ne regardent plus l'effort qu'elle a fait avant, ne regardent pas le potentiel d'arriver à la fin, mais elles regardent la chute. Les yeux sont rivés sur la chute, sur l'échec. Et nous sommes d'accord de dire que la chute, ce n'est pas un moment agréable, ni souhaitable à qui que ce soit, dans quelconque situation que ce soit. Ce n'est pas un moment agréable, c'est vrai. Parce que la chute est souvent liée à un échec, à un abandon, à une erreur, à un manque de pratique. En bref, quelque chose de négatif. C'est aussi ce qu'on lit dans les définitions que j'ai été chercher. Juste pour la définition de tomber, vous pouvez lire avec moi. Si vous souhaitez prendre des notes, c'est aussi bien, parce que ça vous permet de vous rappeler peut-être qu'est-ce que ça signifie tomber. Là, on voit perdre de sa force, de son intensité, ne pas avoir de succès, s'abaisser ou être très déprimé, perdre l'équilibre et faire une chute, s'affaisser au sol, s'abattre, crouler, s'écrouler. Pour moi, ce n'est pas des définitions, des mots qui sont très encourageants. On est d'accord? Chuter, échec, insuccès d'une œuvre, faute qui fait passer dans un état de déchéance, capitulation, reddition d'une place forte. Alors que peut-être ce skieur ou cette skieuse était en train, dans les deux premiers chronomètres, peut-être était en pôle, elle avait le meilleur temps, arrivé à cette chute, boum, tout s'efface. C'est l'échec, c'est l'abandon. Mais il faut aussi noter que lorsqu'il y a une chute, ça signifie qu'il y a eu un mouvement. S'il y a une chute, c'est qu'il y a un mouvement. C'est rare, c'est vrai, que les personnes tombent sans rien faire. Ça arrive. Quand on a trop bu, peut-être, j'espère que ce n'est pas votre cas. Il y a un mouvement, qu'il soit bon ou mauvais, il y a eu mouvement. Mais ce mouvement nous amène quand même à tomber dans cette situation de chute. Et alors, on fait place à un choix. Et aujourd'hui, dans ce message que je vais vous apporter, sur lequel Dieu a vraiment parlé à mon cœur et à ma vie personnelle, parce que le prédicateur qui est là, celui qui vous apporte la parole, il se prêche à lui-même d'abord. Sachez-le. À savoir, lorsque je tombe, qu'est-ce que je fais après? C'est le choix. Lorsqu'on chute, lorsqu'on tombe, il y a un choix. Parce que Dieu nous donne le choix. Dieu nous laisse le choix. Il nous laisse toujours le choix. Vous avez le choix d'être ici, vous avez le choix de partir. Vous ne venez pas par obligation. Si vous venez par obligation, j'espère que c'est vos parents qui vous obligent, parce qu'ils savent ce qui est bon pour vous. Dieu n'est pas un dictateur. Il ne vous impose pas chacun de vos mouvements. Il n'a pas envie de nous imposer chacun de nos mouvements. Il nous laisse libres. Il nous laisse libres. Et c'est la beauté aussi de Dieu, c'est qu'il nous laisse libres de chacun de nos pas. Il nous regarde. Et j'ai mis cette image que j'aime beaucoup, alors que je pensais à ça, que Dieu nous laisse libres. Mais en même temps, il est comme ce papa où on pourrait prendre la maman, mais je trouve que c'est souvent symbolique, c'est le papa qui veut apprendre à ses enfants de faire du vélo. Alors, j'ai pensé à cette image qui, pour moi, vraiment illustre le cœur de Dieu et l'attitude de Dieu face à ses enfants. C'est que lorsqu'on veut apprendre à nos enfants, j'en ai pas encore, mais je pense que ça sera pareil, de faire du vélo, on va pas direct les mettre et puis le jeter. Vas-y, ouais, poum. Non, on a envie d'être là, puis en même temps, on a envie, mais vas-y, tu vas y arriver. Puis on a envie d'être là, allez, 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 allez. Puis on voit le papa qui court, je suis sûr que Luc, il a fait pareil avec ses petits. Et en fait, il est derrière, il y a un côté... Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va pas y arriver? C'est pas grave, je suis là avec lui. J'avance, j'avance. Et hop, il prend son élan. Et peut-être quelques 20 mètres plus tard, le papa est en train de courir. Et là, c'est la chute. Il a envie d'être là, mais c'est la chute. Mais le papa est là. Il nous regarde avancer parce que c'est ce qu'il veut pour nous. Il nous regarde avancer parce que c'est ce qu'il veut pour nous. Comme ce papa, il n'a pas envie de voir son fils ou sa fille être sur le vélo et faire du surplace. Le vélo, c'est pour avancer, hein, on est d'accord. Je pense que le vélo est un très bon exemple, parce que le vélo sur place, alors là on tombe, ça c'est sûr. Le vélo, il faut avancer. Et Dieu veut nous voir avancer. Le juste avance. J'ai dit, le titre de mon message c'est « Le juste tombe, mais il se relève ». Le juste avance. Le juste, mais c'est qui? C'est qui le juste? Qui est-il? Qui est-elle? Le juste, c'est vous? C'est toi? C'est moi. Le juste, c'est vous. Vous êtes juste parce que vous avez été justifié par Jésus. Vous êtes juste parce que vous avez choisi Jésus comme votre sauveur, votre Seigneur, et c'est lui qui vous justifie et il vous rend juste. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis maintenant? C'est pas par rapport à votre couleur, c'est pas par rapport à vos habits, c'est pas par rapport à ce que vous faites que vous allez être juste, c'est par rapport à Jésus. Et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Cette identité sur vous ne va pas s'effacer. Vous êtes juste. Donc maintenant que vous savez que vous êtes le juste, la juste, parce qu'il y a des femmes aussi, on parle aussi aux femmes, et avant d'approfondir justement le choix face à la chute, il est nécessaire de savoir si nous sommes en train d'avancer. Est-ce que nous sommes en train d'avancer ou pas? Car comme je disais avant, il ne peut pas y avoir de chute sans mouvement. Ces deux dernières semaines, comme je disais, et j'ai bien écouté les messages de Walter qui nous parlait de la volonté de Dieu, aimer la volonté de Dieu. C'est un sujet qui nous challenge dans notre quotidien. Parce que la volonté de Dieu peut être aussi de passer par un désert. Je continuerai même dans le désert à t'aimer, parce que Dieu est bon. Mais des fois, c'est vrai que la volonté de Dieu, ce n'est pas forcément d'être en bonne santé à tous les moments de notre vie, que tout ce qu'on fait nous réussisse. Même si c'est vrai, dans la parole, on nous dit qu'on réussira si on médite sa parole. Mais la réussite aux yeux des hommes n'a rien à voir avec la réussite de Dieu. Rien à voir. La réussite de Dieu est bien plus grande. L'appel de Dieu pour notre vie demande un engagement. Et je n'ai pas marqué le verset en entier, mais vous le connaissez normalement tous, dans Matthieu 28, 18, 20. Je ne vais pas le lire, je vais juste le paraphraser. C'est là où Jésus donne le commandement à ses disciples. Allez et faites des nations des disciples, de toutes les nations des disciples. Et là, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Enseignez-les, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, allez, allez. C'est un verbe actif, hein, c'est un verbe en mouvement, on est d'accord. Vous comprenez le français, on est d'accord, hein, c'est juste. Hein. Ok, pas que je me dis que j'ai choisi un bon mot. Hein. Tu me dis, Luc, hein, si jamais. Hein. Et dans Jean 17, au verset 18, Jean 17, verset 18, dans cette prière que Jésus fait, tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Jésus ne nous envoie pas à l'église. On vient à l'église pour partager l'amour entre les uns et les autres. Il ne nous envoie pas à l'église. Je ne sais pas si vous réalisez ça. On a parlé du disciple pendant un mois avec les jeunes. Et moi aussi, je suis challengé tous les jours. À l'église, on est confortable. Mais Jésus ne nous a pas envoyés à l'église. Il nous a envoyés dans toutes les nations. Et comme disait aussi Colbert, ce vendredi disait, d'abord à Jérusalem, d'abord commencez dans votre famille, d'abord commencez dans les lieux qui sont les plus proches de vous. C'est là où vous demande d'aller, d'être en mouvement. La volonté de Dieu pour nous est très simple, regardez. Allez, Alors là, j'ai dû utiliser le mot en anglais parce que on l'avait vu. Oula, ça fait, je pense, 6 ans que j'avais vu ça. C'était à Jeunesse en mission. Quand il nous avait justement parlé aussi de Matthieu 28, God. God, en français, c'est Dieu. Je pense que vous savez normalement ce que ça veut dire. Mais si on prend les deux premières lettres de God, c'est go. Et en français, to go, ça veut dire aller. Donc c'est assez amusant qu'en anglais, les deux premières lettres du mot Dieu représentent un verbe actif qui est le verbe aller. Parce que Dieu nous amène à aller. Il veut que nous soyons engagés. Allez et faites des nations des disciples. Allez et dites, je vous donnerai la puissance pour guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. Mais allez, comment vous voulez exercer ça si on n'y va pas? C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'aimerais, c'est sûr, moi, quand j'entends des témoignages de miracles, j'entends des témoignages de guérison, je suis là, c'est trop beau. On peut pratiquer à l'église. C'est un endroit où, c'est sûr, on a la confiance, on aura peut-être plus de miséricorde de notre frère et de notre sœur. Mais si vous voulez voir des miracles, il dit allez, allez. Ça veut dire justement de partir, de sortir de sa zone de confort. Allez. Ainsi, nous pouvons déjà comprendre une chose pour notre vie. Dieu souhaite que le juste avance. Dieu souhaite que vous avanciez, que j'avance. C'est son souhait. Il ne souhaite pas que vous fassiez du surplace, il souhaite que vous avanciez. Et cela, dans chaque aspect de votre vie spirituelle, votre vie morale, privée, professionnelle, relationnelle, artistique, etc. Dans chaque aspect de votre vie, Dieu souhaite que vous avanciez. Parce que dans tout domaine, il a envie de vous donner le meilleur. Dans tout domaine, il a envie de vous donner le meilleur et que vous puissiez aller. J'ai mis une petite question. Dites-moi la vérité, j'ai mis, c'est mon point. Et j'essaye de suivre mon message, plus ou moins. Si je vous disais, j'ai caché un trésor qui contient le secret pour réussir ta vie en haut du Mont Blanc. Je suis certain que vous n'attendriez pas la fin de mon message pour partir chercher ce trésor. Qui n'attendrait pas si vraiment je vous disais, maintenant j'ai caché un trésor et dans ce trésor tu as les réponses que tu as priées, les réponses pour ta vie, les réponses pour ton futur, pour tes enfants, pour ta carrière. Vous seriez là, ah non, j'y vais, c'est où déjà? Il est sur le Mont Blanc, va chercher. Il est de même pour votre vie avec Dieu. Croyez-vous vraiment que vous allez recevoir votre appel en restant confortablement assis sur votre canapé? Est-ce que vous croyez vraiment qu'en restant assis, et souvent je me suis interpellé à la même chose, « Seigneur, c'est quoi mon appel ?» Ou on a envie de savoir. On a envie de savoir quand on a la révélation de Dieu dans notre vie, la première des choses c'est « Waouh, Dieu existe ». La deuxième c'est « Seigneur, maintenant que tu existes, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» C'est la question que chacun se pose. Et d'ailleurs dans ces questions c'est souvent une prise de tête, on est là « Oh mais est-ce que vraiment c'est la volonté de Dieu ?» On en a parlé pendant 2 semaines. La première des volontés de Dieu c'est « Go, allez !» La première des choses c'est « Allez !» Faites quelque chose, bougez, partagez, pratiquez ce que vous faites. C'est ça que Dieu vous demande, c'est ça que Dieu me demande à moi. Il ne me demande pas simplement, Nico, ben voilà, maintenant tu es à 100% à l'église, tu viens à l'église et puis tranquille, tu vois, tu t'occupes des gens, c'est cool. Non, il ne me demande pas ça. Il me demande d'aller plus loin, il me demande d'aller. C'est en allant, en pratiquant, que vous allez trouver ce que Dieu veut que vous fassiez. Et là, j'ai pris un exemple, j'ai une amie qui travaille maintenant à Mercy Ship depuis 4 ans. Et quand je dis travail, je dirais plutôt qu'il est bénévole, parce que c'est Mercy Ship et donc un bateau qui se déplace pendant tous les 6 mois sur des îles, dans des endroits où c'est la pauvreté absolue, et ils viennent offrir en fait des soins. C'est un bateau comme un hôpital flottant, et les gens, il y a plus de 400 personnels dans ce bateau, et ils sont tous bénévoles. Tous bénévoles, ils sont soutenus par beaucoup de personnes, mais ils sont bénévoles. Et alors qu'on était en communication avec cet ami, j'ai été guigné d'autres choses et puis d'autres témoignages et j'ai été interpellé par ce docteur Gary Parker. Son témoignage est assez simple, mais assez beau. En 1987, vous voyez la photo à gauche, il a décidé de partir en mission. C'était un jeune en formation, en devenir d'être médecin. Il a dit, je vais aller faire de la mission, j'ai envie d'aller. Allez, il a dit, j'ai envie d'aller. Il a été au Mexique, il a été touché par le besoin qu'il y était dans ce pays. Et il a dit, à ce moment-là, Dieu a déposé quelque chose dans mon cœur. Je ferai ça toute ma vie. Je donnerai ma vie pour le bénéfice des autres. Je donnerai ma vie pour servir les autres. Il a terminé sa formation et plus tard, il est retourné. Aujourd'hui, c'est en 2016, vous avez son image. Il dit que ça fait maintenant sur le site, vous pouvez lire son témoignage. Ça fait plus de 23 ans qu'il sert à Mercy Ship. Est-ce que vous pensez que Gary aurait trouvé cet appel dans sa vie S'il était resté sur son canapé, il avait dit, ouais, la mission c'est cool, mais il y en a d'autres qui peuvent y aller. Est-ce que vous pensez qu'il l'aurait trouvé? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il serait là avec le sourire? Regardez son sourire, moi ça m'a touché. Le sourire qu'il a en 1987, c'est le même, avec juste peut-être plus de vécu, plus de sagesse, mais c'est le même. On voit la sincérité et on voit que Dieu le bénit parce qu'il est dans son appel. Et on l'a vu, on a entendu ce que disait Walter, qu'on est dans notre appel, il y a la paix, il y a la bénédiction de Dieu. Amen. Le juste avance, il n'attend pas, il désire pratiquer la bonté en tout temps, car c'est à quoi il est appelé. En Éphésiens 2, 10, on lit Éphésiens 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu a déjà tout préparé. Ce n'est pas comme si vous devez vous creuser la tête pour trouver quoi faire. J'ai dit, le premier commandement, c'est « aller ». Ensuite, les choses vont se placer naturellement. C'est très simple. La volonté de Dieu n'est pas compliquée. Il suffit de dire au premier commandement, allez. Au premier commandement, après, bien sûr, celui d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, on est bien d'accord. Sinon, vous ne voudriez pas aller, c'est évident. Avancez, allez, et n'ayez pas peur de tomber. N'ayez pas peur de tomber. Ce qui m'amène dans mon deuxième point, le juste ne craint pas la chute. Nous ne craignons pas la chute. Le juste avance tout le temps. Mais lorsqu'il avance, son souhait n'est pas de tomber, mais il va tomber. Il va tomber. Jésus sait que nous allons tomber. Il en est conscient. Mais ça ne change pas son regard pour nous. Il nous regarde toujours avec des yeux d'amour, comme ce papa. Est-ce que vous pensez vraiment, si je dis à Luc, je pense que tu as vécu cette histoire de vélo, non? Est-ce que quand vous voyez votre fils ou votre fille tomber, « Oh, mais pourquoi t'es tombé? Mais t'es malin, mais c'est pas possible !» Mais vous croyez vraiment qu'il va être comme ça? Il va dire, « Ok, c'était bien, bravo. Allez, réessaye. Ravance, continue. » C'est exactement comme ça que Dieu vous regarde. C'est exactement comme ça que Dieu nous regarde. On lit dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus était sur le point d'être crucifié, il a dit à ses disciples, « Je serai pour vous tous une occasion de chute. » Dans Matthieu 26, 31, on lit, « Alors Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. » Car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Donc là, Jésus annonce sa crucifixion et annonce que l'endroit où ils vont être amenés à devoir se positionner face à leur foi, ça va les amener à trébucher, tous. Oui, le juste avance et tombe, il trébuche, mais il ne craint pas la chute. Comme nous avons vu en début de ce message, il y a différentes chutes. Il y a des chutes de ski, des chutes de patins roulettes, des chutes de vélo, il y a différents types de chutes. Mais il y a aussi la chute de désobéissance, la chute de caractère, la chute de discipline auquel le chrétien fait face, la désobéissance. Alors que peut-être votre papa, votre patron vous dit de faire quelque chose et vous dit « Non, tu sais, j'aime bien ton projet, mais ne le fais pas ça. » Et vous êtes là « Ah ouais, mais j'ai vraiment envie de le faire. Ouais, je vais quand même le faire, je vais quand même aller appeler la personne. » Désobéissance. « Seigneur, je te promets, je vais arrêter la cigarette. C'est sûr, j'ai envie d'arrêter sa cigarette. Seigneur, je vais arrêter de boire. Seigneur, je te promets, je vais arrêter les jeux électroniques. » 2 heures plus tard, boum, je tombe. Aïe. Ça arrive, mais c'est pas grave. Ça arrive. Parce que le juste tombe. Mais il n'a pas peur de la chute. Seigneur, est-ce que vraiment c'est là où je dois aller? C'est cette prière, je vous dis, je l'ai eue. Est-ce que vraiment c'est là où je dois aller travailler? Est-ce que, Seigneur, vraiment c'est ce lieu dans lequel je dois aller? J'ai vraiment la conviction, j'aime beaucoup l'informatique, ouais, je pense que c'est là où je dois aller. Et une année après, on réalise, ouais, c'était une catastrophe. Et boum, on a fait une année à galérer, une année difficile. Mais ce n'est pas grave, une année d'apprentissage. David, le roi David, qui nous a légué des psaumes incroyables, que nous lisons, je pense, régulièrement, une source d'encouragement, est tombée. Et pas à n'importe comment. Adultère et meurtre. Mais regardez qui est David, qu'est-ce qu'il a déposé après. Il est tombé, bien sûr, il est tombé. Est-ce que la chute est souhaitée par Dieu? Est-ce que vous pensez que Dieu souhaite qu'on tombe? Non, on est d'accord? Non, parce qu'à la base, ce n'était pas son plan qu'on était dans le jardin. Le jardin que Dieu avait prévu pour nous, le jardin magnifique. Vous pensez qu'il avait envie, hey, Adam il va tomber? Non. Mais comme nous l'avons dit, il est conscient de notre nature et il sait que nous allons tomber. Si on regarde ces exemples de chutes, on voit qu'il y en a qui sont plus douloureuses que d'autres. Et c'est vrai, certaines chutes font mal et nous ralentissent. Est-ce que la crainte de la chute nous permet d'éviter la chute? Non. Voilà. On pense parfois qu'il est préférable de rien faire. Ainsi, on ne risque pas de tomber. C'est faux. Vous avez entendu, c'est faux. La crainte ne vous empêchera pas de tomber. Car la crainte de l'échec, au contraire, elle vous empêche d'avancer et de vivre pleinement les promesses de Dieu pour votre vie. Parce qu'il souhaite que nous soyons libres, vivre sans crainte, remplis de son amour. L'amour parfait bannit la crainte. Pierre n'avait pas peur de l'échec et pourtant il est tombé. Un peu plus loin dans les versets de Matthieu 26, 33, on dit « Pierre prit la parole et lui dit « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, trois fois tu me renieras. » Pierre lui répondit « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Un peu plus bas, on sait, vous connaissez cette histoire, trois fois Pierre le renie et boum, il tombe. Lui qui était là, « Non, je ne te renierai pas, Jésus, je t'aime trop, jamais. » Et lui, il est tombé. Ne croyez pas être intouchable. Et là, j'aimerais partir dans l'autre côté de ce juste où on est tellement spirituel. Le pasteur est souvent mis aussi dans cette place. Oh, le pasteur, il est parfait. Le pasteur, il prie beaucoup mieux que les autres. Le pasteur, il a des messages d'inspiration. Le pasteur, il tombe jamais. C'est faux. Le pasteur tombe aussi. Il a une autre responsabilité, c'est vrai. Mais le pasteur tombe aussi. C'est vrai. Mais il ne craint pas la chute. Ainsi donc, celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est dans 1 Corinthiens 10, verset 12. C'est Paul qui nous dit « Ainsi donc, lorsque nous sommes sûrs de nous spirituellement forts, c'est à ce moment qu'il faut faire attention. » Il y a les moments où nous sommes faibles, alors oui, on dit « Oh, la chute, c'est vrai, parce que de toute façon, j'étais faible. » Mais au contraire, aussi, lorsqu'on est spirituellement fort, il faut aussi se méfier. Parce que le juste tombe, et le juste, peu importe lequel il est, il tombe. Mais il n'a pas peur de la chute. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que la chute est aussi le plan de Dieu, car il est souverain dans toute situation. Et dans Romains 8, 28, vous l'avez entendu, je veux le redire, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu par rapport à son plan. Ce n'est pas toute chose concourt au bien, oui, mais par rapport à son plan pour votre vie, pour ma vie. Ça veut dire que ta chute, elle n'a rien à voir avec ma chute. Parce que ton plan pour, le plan que Dieu a pour ta vie, il n'a rien à voir avec le plan qu'il a pour ma vie. Parce que Dieu, aussi grand et aussi précis, il a un plan pour chacun de notre vie. Comme je l'avais dit la dernière fois, il ne faut pas être comme l'autre. Votre différence, c'est une force. Vos chutes sont une force aussi, parce qu'elles vous permettront de soulever quelqu'un d'autre, parce que vous serez tombé là où d'autres sont tombés, mais vous vous serez relevé. Ne cherchez pas à être comme les autres, ne cherchez pas à tomber comme les autres non plus. Alors que faire ? Marchez, marchez, continuez d'avancer. N'ayez pas peur de tomber. Imaginez si nous devions nous arrêter après chaque échec. Je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose d'abouti sur cette terre. Et je parlais avec Luc, je lui posais la question sur le message. Je dis, tu me donnes ta sagesse, s'il te plaît, lis mon message et donne-moi des conseils. Et on a discuté, et en discutant, il m'a parlé d'une histoire que j'ai désiré mettre dans ce message, parce que pour moi, elle est très, très parlante. Luc me racontait une histoire qui lui arrivait alors qu'il était chauffeur poids lourd, il y a de ça quelques années, quoi, plusieurs années. Il avait fait un petit accrochage avec une voiture, son camion, il avait accroché quelque chose, donc il avait abîmé son camion. Et là, tout penaud, il a dû, bien entendu, aller avouer. Patron, j'ai fait une petite touchette sur le camion. Et là, bien entendu, avec humilité, puis il était là, il y aura peut-être une sanction. Le patron, il lui fait, « Mais tu sais, Luc, mais c'est pas grave, il n'y a que ceux qui font rien, à qui il n'arrive rien. » Luc n'a pas été licencié pour le point, et plutôt son patron était là, « C'est bien, Luc, parce que tu as pris des risques, peut-être tu as fait un frein à main dans le virage, c'est bien, tu as pris des risques pour aller plus vite. » C'est bien. Il ne s'est pas arrêté, il lui a dit, « Vas-y, la chute, l'erreur, l'échec est un moyen de s'améliorer, non une fin en soi. » La chute, ce n'est pas une fin en soi, c'est le moyen de se relever plus fort. J'ai trouvé une citation que j'aime bien, alors elle était en anglais, c'est celle que je préférais. Je l'ai mis en français. « Falling down is a part of life. Getting back up is living. » Tomber fait partie de la vie. Se relever, c'est vivre. Tomber, ça fait partie de la vie. Mais par contre, ce qui est la vie, c'est de se relever. Et c'est le plan de Dieu pour votre vie, pour ma vie. Le juste se relève toujours. Le juste avance, ne craint pas la chute et se relève toujours. Dans le Proverbe 24, 16, on lit, vous pouvez lire, « En effet, cette fois le juste tombe, mais il se relève. » Quand les méchants trébuchent en revanche, ils sont précipités dans le malheur. En effet, cette fois, le juste tombe, mais il se relève. Vous avez entendu ? En effet, cette fois. Et moi, j'ai marqué, en effet, cette fois, le juste tombe. On peut dire, une fois, il va tomber. Deux fois, il va tomber. Trois fois, il va tomber. Quatre fois, il va tomber. Sept fois, il va tomber. Et peut-être même plus. Parce que si j'étais tombé que cette fois, ben je serais plutôt content. Mais je vous dis, je suis tombé bien plus que cette fois. Mais par contre, à chaque fois, je me suis relevé. Amen. Et vous aussi? Voici une parole qui est encourageante. Nous allons tomber, mais nous allons nous relever. Vous allez tomber. Je vais tomber. Aujourd'hui, on parle de chute, mais on parle aussi de se relever. Avec cette perspective dans la tête, il est beaucoup plus facile de choisir d'avancer, peu importe la chute. Vous imaginez, parce qu'en sachant que de toute façon, je vais me relever, bien entendu qu'à ce moment-là, la chute, elle me fait moins peur, parce que je sais que je vais me relever. J'ai la sécurité que le juste se relève toujours. Amen. Le juste se relève toujours. Dieu souhaite nous amener bien plus loin que ce que nous pouvons imaginer. On sait, dans Éphésiens, il dit « plus que tes attentes ». Si nous fixons un objectif basé sur nos compétences, il pourrait être bien, voire même excellent. Mais Dieu veut fixer un objectif avec ses compétences. Il veut fixer un objectif basé sur sa perspective, pas la vôtre. Il veut vous amener beaucoup plus loin. Vous voyez, Dieu souhaite nous faire vivre une vie à la hauteur de son nom et non par rapport à vos capacités, non par rapport à qui vous êtes, par rapport à qui il est. Parce qu'on n'a pas choisi, vous savez, je me dis ça aussi de ces temps, on n'a pas choisi d'avoir une sagesse incroyable. Bien entendu, Salomon l'a prié, on peut prier, c'est marqué aussi dans Jacques, on peut prier pour l'intelligence, on peut prier, je vous encourage à le faire. Mais on est tous nés différemment, on a tous un cerveau différent, certains ils sont capables de faire des calculs de physique quantique, ça veut rien dire, c'est pire que du chinois, et pourtant ils y arrivent. Mais heureusement que certains font ça, ça nous permet d'avancer, chacun à notre niveau. Tout comme le potier, il refait, il continue de façonner. Il va continuer de travailler notre vie à travers la chute. Il va nous façonner à son image afin de pouvoir gentiment mais sûrement lui ressembler. C'est son souhait. Dieu est bon et tout ce qu'il fait est bon. Ainsi, la chute que le juste va vivre est un moyen par lequel Dieu cherche à lui faire vivre de plus grandes victoires. Et j'ai mis ce verset qui pour moi est un verset vraiment que j'aimerais que vous puissiez lire maintenant et marquez-le, c'est 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui sans le voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alors que nous tombons, nous nous relevons afin de ressembler davantage à Dieu. C'est ça son souhait, que nous puissions vivre de gloire en gloire, plus de promesses. À chaque chute, on se relève, on est plus fort. Dans chaque chute, Dieu vient nous relever et nous façonner un peu plus à son image, plus de lui et moins de nous. David le dit, pareil, il le dit avec ces mots dans Psaume 37, 24. S'il tombe, le juste, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. On se rappelle très bien quand Pierre est sorti, le courage, il a choisi d'avancer, sortir de la barque. Après peut-être quelques pas, il est tombé. Mais à ce moment-là, aussitôt, la main de Jésus était là. À chaque moment, comme ce papa qui va voir son enfant, il va courir vers lui, il va le relever. Et ça sera pareil pour vous, pour moi. J'aimerais revenir sur cette situation de Pierre qui pour moi est un exemple vraiment important. Alors là, bien sûr, sur la barque, mais plutôt dans le Matthieu 26, comme je disais. Alors que Jésus lui dit « Tu me renieras trois fois », Pierre assure Jésus que non. Et pourtant, comme on l'a lu et comme on le sait, quelques versets plus loin, on lit que Pierre va renier Jésus trois fois. Il est tombé. Et vous savez, la morale de cette histoire est incroyable. Pour moi, c'est une histoire qui est... Je vous invite à relire, je vous invite à méditer, je vous invite à prier. Jésus voulait montrer à Pierre qu'il ne pourrait pas le suivre par ses forces. Et qu'il avait besoin de son esprit, et qu'il se laisse façonner. C'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était que Pierre, qui était si fier, si zélé, et croyez-moi, c'est bien, ayez du zèle, annonce l'évangile, ayez du zèle, c'est pas mauvais, ayez du zèle d'avancer. Ne soyez pas trop fiers, mais ne craignez pas la chute. Parce qu'à travers ça, Dieu va vous façonner pour vous permettre de faire des plus grandes choses, parce que vous allez vous reposer sur ses forces. C'est lorsque je suis faible que tu es fort. Ce verset prend tout son sens ici aussi dans le contexte de Pierre. Car Jésus savait que Pierre serait un pionnier dans la fondation des églises et qu'il avait besoin de reconnaître que ce n'est pas par ses forces, mais par l'Esprit de Dieu qu'il allait tenir bon. De gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, on a dit avant, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas marqué par la force de Luc, par la force de Nico, d'être transformé de gloire en gloire par sa force, par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui vous conduit à être changé. Quelle joie de savoir que nous pouvons avancer sans craindre la chute et réaliser que Dieu nous relèvera chaque fois, en tout temps, afin qu'il puisse accomplir sa promesse pour votre vie, pour ma vie. La chute, et j'en suis certain ici, et je vous invite à le faire aussi, je vous invite vraiment à le faire. Peut-être après le culte, partagez les chutes que vous avez vécues, mais comment Dieu vous a relevé? Et comment, à travers cette chute, vous avez pu relever un de vos frères? Parce que c'est ce qui s'est aussi passé avec Pierre. Lorsque lui est tombé, un peu plus loin, il a pu dire, quand les disciples allaient vers le temple et ils voient cette personne qui est aveugle, il dit, donne-moi de l'argent. Il dit, je n'ai rien, mais au nom de Jésus, lève-toi. Et là, il tend la main. Pierre tend la main et le relève. Parce que lui-même avait reçu cette main tendue. Vous pouvez faire pareil. Dans vos chutes, laissez Dieu utiliser cette chute pour lui rendre gloire. Et vivre une gloire encore plus grande. Alors que j'arrive sur ma conclusion, j'ai mis la chute, elle n'est pas si douloureuse en fait. Non? Est-ce que la chute, maintenant que vous avez vu ce message, vous avez écouté, est-ce que maintenant vous avez un peu moins peur de tomber? Dites-moi. Levez la main si vous avez un peu moins peur de tomber aujourd'hui. Ok, certains, je répéterai le message. Mais la chute, c'est un outil de perfectionnement dans les mains de Dieu pour votre vie. La chute, c'est le plan de Dieu. Mes chers amis, nous n'avons pas d'autre alternative que d'avancer, car c'est ici le commandement de Jésus pour ses disciples, les justes, vous et moi. Avancez, allez. Nous devons avancer et ne pas perdre de temps. Pratiquer, appliquer la parole de Dieu au quotidien. C'est à quoi Dieu nous appelle. Je vous ai dit, si vous devez retenir une chose, allez, allez, ne restez pas assis. Qui que vous soyez, grand, petit, âgé, dites pas, ouais, mon temps il est fini, mon appel est terminé, je ne peux plus marcher, c'est pas vrai. Vous pouvez peut-être encore parler, vous pouvez encore peut-être prier pour quelqu'un, vous pouvez écrire des lettres, une lettre qui peut-être transformera la vie de quelqu'un. Faites quelque chose, pratiquez les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous, pour nous, pour moi. Pratiquez. Nous pouvons le faire sans crainte, car la chute est prévue, mais ne nous arrête pas dans notre appel. Elle n'arrête pas notre appel. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu en fonction du plan pour leur vie. Et ma prière aujourd'hui, c'est que la chute vous rende plus dépendant de Dieu. Que lorsque vous tombiez, vous ne restiez pas face au sol comme ça. « Ah, je suis tombé, oh, c'est pas beau. Oh. Seigneur, c'est pas beau quand je suis tombé. C'est pas beau quand j'ai menti encore une fois. C'est pas beau quand j'ai encore regardé des mauvaises images. C'est pas beau, j'ai encore désobéi. C'est pas beau, je pensais que je pouvais y arriver. Oh mince, je me suis trompé. C'est pas beau. » Mais levez la tête, parce que alors que vous levez la tête, Jésus a déjà sa main levée. Maintenant, j'aimerais simplement terminer ce message. Aujourd'hui, si vous êtes par terre, aujourd'hui, si vous êtes tombé, peut-être que ça fait 100 fois, peut-être que ça fait 300 fois, peut-être que ça fait 10 000 fois, peut-être que ça fait je ne sais pas combien de fois. Aujourd'hui, peut-être vous êtes venu, vous étiez à terre, peut-être aujourd'hui vous êtes venu en rampant, avec de la culpabilité dans le cœur. Seigneur, comment je peux venir à l'église alors que hier j'étais en train de faire quelque chose qui ne te plaisait pas. Et vous le savez. Alors que je parle maintenant, vous le savez. La conviction de l'Esprit vient dans votre cœur. Mais ne restez pas à terre. Ne restez pas à terre aujourd'hui. Ne décidez pas de laisser l'ennemi mettre la culpabilité sur votre situation actuelle. Parce que Jésus sait que nous allons tomber. Jésus sait. Et il a payé le prix sur la croix afin de vous relever éternellement. Éternellement. Éternellement, il vous relèvera. Jusqu'à être avec lui pour chanter, pour le louer. Le juste tombe, mais se relève toujours. Aujourd'hui, qui que tu sois, tu te dis, ouais, ma vie, elle n'est pas comme j'aurais pensé qu'elle soit. Je fais que de tomber, je fais que de faire des échecs. J'arrive pas à lever la tête. Ma tête est lourde de culpabilité, mais ma tête est lourde d'échecs, ma tête est lourde, je suis fatigué, j'en peux plus. Pourquoi? Parce que je me bats avec mes forces. Parce que j'essaie de faire bien avec mes capacités. Alors maintenant, écoutez ce que Dieu a envie de vous dire. Ce n'est pas par tes forces, mais par mon esprit. Écoutez, aujourd'hui, c'est quand tu es faible. C'est aujourd'hui, c'est quand tu tombes, que Dieu se réjouit. Il est là, yes, il est tombé! C'est ça que Dieu dit dans son cœur. Comme Pierre, il est là. Heureusement, je savais qu'il allait tomber, afin que je le relève encore mieux. Je vous prie maintenant de simplement prendre cette parole et demander à Dieu de sonder votre cœur. Seigneur, montre-moi là où je suis tombé et j'ai peur de me relever. Et montre-moi ton regard de père. Comme ce père qui a envie d'enseigner le vélo à son enfant, gardez cette image, il est à côté de vous, il va courir à côté de vous tout le temps. Et à chaque moment que vous tomberez, il sera là pour vous relever. Parce qu'il veut vous permettre d'aller plus loin. Merci.